Les controverses du village, épisode numéro 7, deuxième partie. Dans la première partie de ce podcast, nous avons commencé à débattre de ce qui pourrait permettre de faire décoller la fiction française, engluée depuis maintenant plus d'une demi-décennie dans une crise dont on parle beaucoup mais dont on ne voit pas vraiment le bout. Alors nous avions abordé deux premiers grands thèmes, des notions créatives autour de notamment de la question du showrunner et une partie autour des sociétés de production françaises. Deux nouvelles parties dans ce débat aujourd'hui, une controverse qui continue d'être bien animée entre les membres de la rédaction, moi-même Sylvain Le Postec, Dominique Montet et Émilie Flamand. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Allez, on essaye d'enchaîner un petit peu, catégorie suivante. Toujours lyrique, j'ai appelé ça « Changer le paysage audiovisuel ». Parce qu'il faut bien dire qu'en fait, le système télévisuel français, il n'encourage pas tellement la diversité et la création. Il y a eu une première étape qui a été franchie avec la TNT. On est enfin pu sortir d'un système où on n'avait que 6 chaînes, alors que ça fait déjà des années que dans d'autres pays, il y avait... Et beaucoup plus de chaînes qui s'étaient développées, y compris des pays européens. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour pousser encore plus loin cette diversité? Toi, Dominique, je sais que tu es assez attaché au développement de chaînes assez spécialisées éditorialement.
Le problème, c'est quand on prend un groupe comme le groupe M6, qui a comme dérivation W9, et puis je ne sais plus trop...
Je crois qu'ils ont la moitié de TF6.
La moitié de TF6, il doit y avoir Teva aussi.
Série Club et Teva.
Série Club et Teva, ouais.
Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit là-dedans trois généralistes. M6, W9, TF6.
Et même Teva.
Et Teva, c'est une
ex-spécialiste qui s'est généralisée.
C'est l'ancienne M6, en fait. C'était le M6 Accès Femmes qui est devenu Teva. Et donc, Série Club, donc une résurgence un petit peu du catalogue dont veut pas M6 qui tombe chez Série Club. Je suis désolé pour ceux de Série Club, c'était très bien ce que vous faisiez il y a 10 ans, puis maintenant. Donc, ça c'est dit.
Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est des amis.
Ah oui, oui, bah oui, non.
Je t'ai dit, on pourrait rassurer les gens de Série Club. Finalement, Ginny, c'est encore pire que vous.
Voilà, oui. Il n'y a pas que vous. Hein. C'est tout le câble de l'époque qui s'est pris une baffe monumentale. Et ça, c'est encore un autre sujet. Ah oui, oui, c'est tout le câble. Et le problème, c'est que c'est ça. Donc, il y a trois généralistes, une demi-généraliste, une série. Voilà. Si on imposait à tous les groupes médias de n'avoir qu'une seule généraliste, ça voudrait dire qu'M6 aurait quelque part derrière une chaîne axée, on va dire, documentaire, une chaîne axée série, une chaîne axée femme, une chaîne axée musique. Une chaîne vraiment axée jeune, pas comme maintenant. Ça donnerait beaucoup plus de variété, beaucoup plus de débouchés, et un petit peu à l'égal de ce que fait la BBC en Angleterre, où chaque BBC a vraiment son axe, ça permettrait de segmenter.
Ou même, les groupes privés, c'est pareil, on a bien voilà. Channel 4 qui donne un E4 qui est encore plus jeune, encore plus branchouille, encore plus tout.
Exactement, qui donne des séries comme Skins et Misfits, dont on parle à vous rabattre les oreilles comme c'est pas permis sur le village.
Et partout.
Oui, partout. Si vous imposez à cette chaîne de faire une seule généraliste, ça lui permet, quand elle fait ses achats, de dire « Ok, bon, cette série-là, c'est pas fait pour M6 Premium, clairement, et puis ça peut arriver. Par contre, ça nous plaît, donc on va la faire pour tel rejeton. Par contre, on mettra moins d'argent. Mais peu importe, limite. » Alors qu'à l'heure actuelle, si c'est pas pour M6, dans le groupe, c'est pour qui? C'est pour personne, parce que globalement, W9, ça diffuse ce que M6 veut pas diffuser, TF6 encore pire, et voilà, donc ça les intéresse pas. Donc, forcer ces grands groupes à n'avoir qu'une seule généraliste. Ça me semble déjà une étape
majeure. T'as déjà des choses un peu comme ça, en fait, dans le principe. Non mais sérieusement.
Parce qu'il faut savoir quand, que WNF, si je me trompe pas, sa convention avec le CSA, ça va être une chaîne musicale. Hein.
Mais voilà, mais c'est ça toute la
question. Trois clips à 7h du matin.
Globalement, quand tu as eu les attributions des canaux, quand tu as eu les canaux TNT, l'idée c'était que les dossiers de candidature, justement, c'était d'éviter les mini généralistes et d'avoir des choses thématiques avec des lignes éditoriales spécifiques.
Raté.
Au départ, ça part comme ça. Sauf que rapidement, ils se sont dit « Ah merde, en fait, nos audiences, elles tiennent pas la route. Ah bah, c'est pas grave, on va rajouter un peu de ça, comme ça marche à côté.
Oui, » mais...
Et ainsi de suite. Et donc, tout compte fait, pour une question basse et méchante d'audience, ils ont commencé à changer. Ils sont tous partis
sur les généralistes. Parce qu'ils ont tous eu peur.
Oui. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Le CSA derrière a fait « Ouais, bon, en même temps, si on commence à gueuler sur eux, bah en fait, il va plus rester grand-chose parce qu'ils vont tous se casser la gueule. Bon, bah, on va rien dire. »
Voilà. Et alors donc d'un côté on a peur et de l'autre on dit rien.
Voilà.
Super.
Vive la France.
Mais globalement faut.
Ça va arranger notre image à l'étranger. Ça.
Ah non mais. Bon.
Et alors pour parler du volet peur, on est encore dans cette folie française qui croit qu'on va faire de l'audience en 6 mois quoi.
Oui.
6 mois après avoir lancé ma
ça
chaîne.
Ça s'installe pas en 6 mois.
Oh putain, j'ai pas fait d'audience, c'est incroyable. Je lance ma première série. Je comment ça? HeroCorp a fait pas directement 10 millions de téléspectateurs dès sa première saison. Mais j'arrête tout, c'est un scandale. La série c'est de la merde.
Franchement, mais... vu le prix où je la paye, je l'arrête.
Oh bah attends, ah, ouais.
Merde quoi.
Et c'est de la folie quoi.
C'est le budget café, non?
C'est le budget des crayons crayons rouges chez France Télé quoi.
Encore la moitié.
Je te rappelle le logo France Télévision, vas-y.
Et encore une fois, il suffit d'un tout petit peu regarder les systèmes étrangers quoi. Une chaîne comme AMC, elle s'est lancée dans les séries avec Mad Men, ça fait 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Ben voilà, ils arrivent maintenant, là cet automne, ils ont fait 6 millions de téléspectateurs avec Walking Dead.
Ouais.
Ils ont labouré le putain de truc pendant 4 ans, 5 ans, et ben ça marche maintenant. Maintenant ils ont un putain de gros succès commercial.
Et une énorme image à travers le monde.
Ah, Canal ça, Plus, ils ont Canal Plus.
L'image de marque en France.
Ben, enfin, c'est pas faux, mais ça devrait. Ouais. Canal
ça
Plus,
devrait.
Canal Plus, ils
oui,
ont
mais
commencé.
C'est comme une question d'export, c'est la même question. Hein,
Canal Plus, ils ont commencé à travailler les séries il y a. Ben maintenant ça fait 6 ans. Et ben ils ont mis 4 ans et demi à ce que Braco et Pigalle la nuit soient les premiers vrais succès commerciaux, parce que en grenage ça marchouillait pas mal, mais les audiences de la deuxième saison c'était même pas génial du tout quoi. Enfin c'est pas mal, mais les vrais succès qui dépassent les 1 million de téléspectateurs, c'est seulement à partir de Braco.
Sachant que sur Canal, il y avait eu d'autres tentatives avant qui ont échoué lamentablement. Parce qu'ils sont arrêtés en route. Quoi.
Là, il y a eu un miracle
là,
à Canal.
Coup de chaperon,
un vrai miracle.
Ouais.
Ils ont réussi à tenir le truc. Et voilà, et au bout de 5 ans, ça marche. Quoi. Alors, ça, on peut l'appliquer à tous les sujets, à toutes les chaînes. Genre, mais juste labourer un peu votre champ. Vous imaginez pas que parce que vous mettez une première série à l'antenne. Ça a même été vrai chez Arte l'année dernière, on se notait très bien qu'ils étaient déçus des chiffres des Invincibles. Mais ces gens croient vraiment qu'il suffit de mettre un truc une première fois à l'antenne et que du jour au lendemain leurs audiences vont doubler. Ils sont malades.
Pour une création de chaîne, c'est encore pire quoi. Pour installer une chaîne, c'est pas au bout de 6 mois qu'il faut regarder, c'est plus tard. Alors après, est-ce qu'il fallait vraiment la lancer cette chaîne là? Je sais pas. Est-ce qu'il fallait lancer W9 pour M6? Je suis pas convaincu, j'adore voir les Simpsons le samedi soir, mais bon, il y a les DVD aussi hein, pour ça.
Mais c'est là aussi qu'on voit à quel point en fait les gens qui. Enfin, je suis désolé, ça canarde, mais c'est un peu le but de ce podcast. C'est là qu'on voit que les gens qui font de la télévision en France sont pas du tout pertinents en fait. Je sais pas où est-ce qu'ils ont appris leur métier, mais visiblement nulle part. Parce que quand on regarde les fameux dossiers en fait.
Là, je suis en train d'essayer de me former pour aller bosser là-dedans.
Mais je crois que tu dis toi-même que des fois quand t'entends tes formateurs, tu réalises que pourquoi on est dans la merde.
Il y a des gaps parfois, oui.
Quand on voit les dossiers qui ont été déposés au CSA, enfin, du en l'occurrence, où ils ont essayé de faire des chaînes thématiques, qu'est-ce qu'on peut faire comme chaîne thématique? On va faire une chaîne musicale, on passera des clips. Et il y a eu deux dossiers de chaînes musicales, on va passer des clips. Enfin, les mecs, ils font un brainstorming pendant 6 mois, quoi, truc à quel ils arrivent à pondre, c'est on va faire une chaîne thématique, ce sera de la musique, on passera des clips.
Mais
ils sont incapables de segmenter en termes de public, c'est incroyable.
Si, t'as quand même un truc de base, c'est que bon, là aussi,
Mais vu un dossier de chaîne de la TNT qui dit on va faire une chaîne pour les 15-25 ans.
Sur la TNT, tu pars aussi du principe où tu as toutes les grandes chaînes existantes qui sont parties et dessus, et toutes les chaînes en question ont eu une chaîne bonus. Donc en gros, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils sont tamponnés.
Mais c'était même si je peux faire ce que je veux, je me dis tant qu'à faire, je vais lancer une chaîne qui marche. Je vais pas lancer une chaîne qui va passer des clips. C'est quand même élémentaire, la TNT se lance et numérique. Ben, mais oui, mais
ça coûte rien.
Mais sauf qu'Emily,
quand tu regardes MCM, Emily, la preuve, ils ont arrêté quand même des scores sur du clip. Enfin,
mais sauf qu'ils ont cité d'autres.
Ils ont arrêté de passer des clips au bout de 6 mois parce qu'ils faisaient pas d'audience. Donc même si ça coûte rien, ça marche pas. Faire une chaîne de télé pour les 15-25 ans, c'était élémentaire. Comment est-ce qu'ils ont pas pu le faire?
Mais c'était censé arriver. France 4 est censé être quand même de.
C'est pas
France 4 était censé être jeune au départ.
Ah oui, c'est raté.
Mais là, qu'est-ce qu'ils se sont pris? Ils se sont pris dans la gueule que les chaînes du service public devaient s'adresser à tout le monde.
Mais parce qu'ils n'étaient pas censés l'être. Parce que France 4, à la base, c'est festival. C'était une chaîne de la création de
trucs machin.
Et qu'au bout d'un moment, il y a un mec à France Télé qui, je sais pas, il a allumé son cerveau un matin et il s'est dit ce que je viens de me dire. Ah, mais quand même, faire une chaîne pour les jeunes sur la TNT, ça me pose comme une évidence. Non. Et là, tous les autres l'ont regardé et me disent oh bah putain, ouais, t'as raison, c'est une évidence. Et donc, du coup, ils ont dit on va faire une chaîne jeune sur France 4. Bah, sauf que c'était pas ce qui était prévu. Et que comme le CSA qui gueule pas sur toutes les chaînes privées, qui respectent aucune de leurs obligations, dès que France Télé a le malheur de bouger le bout de son petit doigt d'ongle, attends, arrête, là, tu as déconné, t'es en train de me faire une chaîne pour les jeunes. Parce que les mecs du lobby, là, de taverne au M6, il sent que les mecs sont en train de venir bouffer la laine sur son dos. Il dit ah non, France 4, c'est un scandale, ils font de la télé pour les jeunes. Je le sais, ça doit arrêter ça, c'est immédiatement. C'est de la folie.
Nicolas, si tu veux venir un jour à un podcast, tu seras le bienvenu. J'aimerais te rencontrer.
Mais bon, oui, clairement, les chaînes de la TNT, ok, elles sont toutes pareilles. On est d'accord. Est-ce qu'on va réussir à le changer? Très franchement, j'y crois pas. Est-ce que, déjà, pourquoi est-ce que les chaînes thématiques regardent le câble? Déjà, les chaînes thématiques, même sur le câble, elles se cassent la gueule. Bon, les chaînes thématiques, sur le câble, il faut payer pour. Ok, elles n'ont plus rien dans leur contenu.
Si tu pars,
ok.
Si tu pars juste du traumatisme des années 90, où les chaînes du câble n'avaient pas de visibilité sur leur audience et se sont mis à acheter des trucs super chers, et qu'après ils se sont dit, merde, personne ne nous regarde.
Oui.
Comment on fait? Non, mais ça part d'une étude. Tu pars pas à la hussarde en achetant tout ce qui passe, en te disant, ouais, je vais diffuser Les Sopranos, ouais, je vais diffuser Profit à 20h50. Tu réfléchis avant de faire des choses comme ça. Ça n'a pas été réfléchi. Ça n'a pas été réfléchi à l'époque dans ce sens-là et c'est pas réfléchi maintenant dans l'autre. Donc, au bout d'un moment, il faut trouver peut-être un juste milieu. Il faut réfléchir. Faire des études de marché. Troisième gros mot du podcast.
Non, mais le pire, c'est que tu dis ça, mais tout compte fait, quand tu regardes, ils sont pas si dégueux que ça, leur score, la plupart de ces chaînes à la TNT.
Bah, au bout d'un moment...
Non, mais franchement.
Oui,
bah franchement.
Oui, ouais, puis ils se complaisent là-dedans. C'est des...
Mais bien sûr.
C'est des programmes qui leur coûtent strictement rien. Comme... Ils arrivent à faire de l'audience.
Mais c'est comme économiquement. Quand... Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un de très bien placé, on va dire, dans...
Nicolas.
Non, ce n'était pas Nicolas, je suis désolée.
Nicolas
dans tout ce qui
pas.
Va être programme, justement, et grille de programme globalement, et qui a, on va dire, de la bouteille sur le sujet. Je ne citerai pas cette personne. Mais en gros, quand tu discutes avec lui de mais pourquoi est-ce que on continue de programmer 5 épisodes d'une série à la suite? C'est aberrant. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord.
Et là, assez régulièrement maintenant, c'est sur la TNT, c'est un 7 ou 8 épisodes.
Oui. Mais non, mais voilà, mais l'autre jour, je dis oui, bah je sais pas quoi regarder, je voulais pas trop regarder la télé, j'ai mis Stargate Atlantis, ça m'a duré de 13h à 19h. Voilà, non mais voilà.
Et on parle de la chaîne de TNT, mais non, en ce moment, sur M6, Good Wife, c'est 4 épisodes à la suite.
Hein. Non, mais...
4 inédits à la suite.
Bah, ils ont pas de rediff encore, quand même.
Ah non, mais... Non, ils pourraient, diffuser 2 inédits, puis après des rediffs des 2 premiers.
La semaine d'avant.
Et faudrait tenter un soir, voir si les gens zappent.
Mais bon. Mais non, mais globalement, on arrive à t'expliquer très sérieux, le plus sérieusement du monde, mais bien sûr qu'on va continuer à diffuser par 4. Je vois pas pourquoi on arrêterait de diffuser par 4. Quand on diffuse par 2, les gens, quand il y a le programme suivant, si ça leur plaît pas trop, ou s'ils hésitent ou machin, ils zappent, on les perd. Si on diffuse par 4, rediff ou pas, on fait plus de scores.
Donc, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de programmation. Elle n'existe pas, c'est un mythe.
Oui, mais attends.
Il
n'y
a personne à la tête des services programmation,
des chaînes. Mais quand tu regardes les analyses d'audience, 4 épisodes à la suite d'un truc genre NCIS ou CSI, ça fait encore de l'audience.
Si...
Vu le coût que ça leur coûte,
oui, non, mais
ça leur coûte rien.
Non, mais...
Et ils récupèrent plein de pubs grâce à ça, et ils maintiennent jusqu'à minuit leurs pubs. Mais économiquement, Bien sûr que ça les
jusqu'à
intéresse.
Jusqu'à essouffler complètement le produit.
Bien sûr.
Et au bout de deux ans, la série, il faut en trouver une autre parce qu'elle est essorée.
Exactement, il faut en trouver une autre à essorer.
Oui, mais là, pour l'instant,
mais ça prouve bien que c'est pas étudié. Ça veut dire que si t'es pas foutu de conserver ton auditoire entre 20h50 et minuit 50 en ayant deux programmes différents, c'est que tu sais pas faire une grille de programmes.
Si tu arrives, si t'es suffisamment, c'est un suffisamment bon programmateur pour enchaîner des programmes qui vont bien ensemble, tu arrives à maintenir un niveau de déperdition entre deux programmes qui est pas si mauvais que ça. Simplement, effectivement, bah, il faut savoir vraiment programmer au sens
propre.
Faut
savoir programmer.
C'est ça, 2015. Enfin, les trois quarts.
Personne ne sait programmer en France.
Regarde M6. Combien de séries depuis un an, en deuxième partie de soirée, se sont fait déprogrammer pour cause de chute d'audience?
Parce que tu enchaînes NCIS avec Sons of Anarchy.
Oui, ou avec
quel joli pairing, c'est parfait.
Dollhouse, il était à la suite de quoi? C'était un autre truc aussi, c'était dézingué aussi.
Peut-être bien NCIS aussi.
Oui, je pense que c'est pour ça que c'était NCIS aussi.
NCIS, je sais pas trop, mais je crois que c'était le jeudi, c'est passé le vendredi, c'est le samedi, c'est presque tous les soirs.
Tous les jours.
C'est comme si CSI sur un 1. Mais pourquoi? Mais globalement, oui, bien sûr que c'est mal programmé. Mais quand on t'explique aussi les règles de programmation, tu comprends. Enfin, c'est pas pour rien quand tu dis HeroCorp, ça a été foutu à 20h pendant une semaine, tous les soirs de la semaine, etc. Yeah. C'est crétin, bien sûr, mais ça a des logiques derrière. Il y a des logiques. On les comprend pas, mais il y a des logiques.
Il y a un cursus qui existe pour devenir programmateur ou c'est juste parce que t'as pas réussi à faire autre chose?
Après, il y a des trucs aussi qui sont à la limite. Émilie nous explique que pour programmer une série étrangère qu'on achète Peanuts et qui rassemble des tonnes de téléspectateurs, en mettre 22 à la suite, c'est
vu le nombre
en mélangeant vendredi, machin, voilà, c'est logique.
Ok, très bien.
Très bien. Non mais très bien, d'accord. Éventuellement, je pense que c'est stupide et qu'à mon avis, TF1 est plus avantagé à faire 22 semaines, 9 millions de téléspectateurs avec un inédit du Mentaliste plus une rediff plutôt que de faire 9 millions de téléspectateurs seulement 4 semaines parce qu'ils n'ont passé 12 à la suite. Admettons.
Non, mais Mentaliste, les audiences de la saison 1, la saison 2, en faisant un inédit, une rediff, ils ont chuté.
Ils sont passés de 10 millions à 8 millions et demi, ils sont toujours
Ils étaient les 90 meilleures audiences l'année d'avant.
Mais est-ce qu'ils ne feraient pas plus s'ils mettaient justement deux inédits de la série pendant 11 semaines?
Bon, mais cela dit, parce qu'on s'éloigne de notre sujet, je voulais revenir à notre sujet, qui est dire si à la limite ça fait sens pour les achats étrangers. Il ne peut plus y avoir aucun sens économique de ramener ça à la fiction française, si vous voulez. Ouais. Parce que la fiction française, vous ne l'achetez pas des cacahuètes à l'étranger.
Et vous n'en avez pas 50 milliards d'épisodes.
Donc quand vous payez un truc, un million ou un million. Je crois que Les Vivants et les Morts, ça doit taper dans le 1 million de l'épisode pour du service public. C'était de la fiction très chère. Et quand vous en diffusez 3 épisodes à la suite, donc vous dépensez 1 million et demi pour un programme diffusé de 22h30 à 23h30, économiquement, stratégiquement, du point de vue de l'audience, du point de vue de tout, c'est un non-sens. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Rien. Sauf que, comme ces crétins ont pris l'habitude de diffuser 22 NCIS à la suite, ou sur France 2, c'est des FBI ou des Cold Case, ben, quand ils arrivent avec une série française entre les mains, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est français, je ne sais pas quoi en faire, je fais comme d'habitude. »
Non, mais il y a les programmateurs qui ont cette habitude, mais il n'y a pas que. Moi, hier, je râlais dans le 15o sur les téléspectateurs qui, en gros, sont bien passifs, mais sur ça aussi, faut pas croire, le téléspectateur attend aussi d'être tranquille.
Mais le téléspectateur, tu lui changes ses habitudes, il va changer sa manière de regarder la télé.
Exactement, par définition. Mais Émilie, il y a un moyen super simple de prouver ça.
Je suis d'accord.
Il y a un moyen super simple de prouver ça, qui est que avant les années 80, deux épisodes à la suite, ça n'existait pas. Les mecs, ils l'ont inventé à la privatisation de TF1 dans les années 80. Avant ça, Mystérieux Docteur Cornelius, c'était un 6x52. Oui, en France, en fin des années 70, début des années 80, on produisait des 6x52 et on en passait un épisode par semaine en prime time. Ça se faisait. Et au beau jour, il y a un mec qui a décidé qu'on allait passer 15 épisodes à la suite en prime time et qu'on allait changer les habitudes de tous les téléspectateurs. Et ben, vous savez quoi, les téléspectateurs, ils sont passifs, ils se foutent devant leur canapé, devant la télé, et ils regardent ce qu'on leur donne. Ouais. Et du coup, on leur a changé leur habitude.
À l'époque, t'avais combien de chaînes? Changer les habitudes des téléspectateurs quand t'as un petit paquet de chaînes, ça va. Quand t'en as comme maintenant 18, Le téléspectateur passif, tu vas lui changer ses habitudes. T'as une chaîne, il va dire, ouais, bon, ils me font chier, eux. Hop, on va passer
sauf,
à l'autre. Ah, bah, c'est
que
comme
je suis désolé si t'es
je
une chaîne.
Je vais me bouffer les 10 CIS, elle a pas fait des 10 CSI.
Sauf que je suis désolé si t'es une chaîne leader, si t'es une des chaînes premium, que t'as un budget de, qui est quand même autre que celui d'Energie 12. Tu peux proposer à tes, pro, à tes programmes, une, à tes téléspectateurs, une qualité de programme qui fait que, bon, s'ils ont choisi entre ta dernière série américaine inédite ou une bonne série française et la 22e rediff du même épisode des Simpsons qu'ils ont déjà vu 3 fois dans la semaine, il est possible qu'ils aillent pas regarder le, la 23e rediff de l'épisode des Simpsons qu'ils ont déjà vu 3 fois cette semaine, si tu veux.
Je suis d'accord avec toi sur le fond. Je suis bien sûr que je suis d'accord sur le fait que ça doit pas être diffusé comme ça, pas être programmé comme ça. Maintenant, sur ce point-là, je fais l'avocat du diable, si tu veux. J'ai entendu ces trucs-là texto.
Donc c'est bien si ça, tu veux, le pire, c'est qu'ils en sont convaincus. C'est
mais
pas,
bien sûr, mais bien sûr. Mais en même temps, quand on te l'explique, je dis par A plus B économiquement, tu comprends clairement que tant que le truc, en effet, mais ne sera pas essoufflé, non, mais ils continueront là-dessus.
Et moi, là, je rebondis sur un mot que tu as employé qui est très simple. Tu dis, ok, économiquement, ça justifie, très bien, d'accord, ok. Mais en France, on n'a pas un truc qui s'appelle le service public. Leur intérêt et leur fonction, c'est pas de pas être soumis aux dictats de l'économie.
Et ben c'est, si. C'est faux, non, c'est faux. France Télé, non, France Télé est plus soumis à la pub. Ok, donc la pub, forcément, tu dis plus soumis à la pub, t'es plus soumis à l'audience parce que tu vends plus des parts de cerveau, donc tu vends plus des parts d'audience. Par contre, si tu dis à France Télé qu'ils peuvent, en gros, France Télé, tu leur dis c'est pas grave si vous perdez des, si vous avez des chutes d'audience ou si vous avez des audiences beaucoup plus basses, ils sont quand même tabés sur la gueule parce que France Télé est une chaîne de service public, surtout France 2. Les autres, à la rigueur, c'est encore autre chose. Mais France 2, on a beau leur dire qu'ils sont pas dépendants de l'audience, mon œil qu'ils sont pas dépendants de l'audience.
Attends,
ils se font taper dessus si jamais ils ne sont pas assez grand public. Sauf
que,
s'ils
sauf que
pas
je
ne
demande pas à passer France 2 sous les 5% de part de marché. Hein. Changer, c'est. Encore une fois, je suis la preuve que ça peut se faire, ça a déjà été fait.
Oui.
Il y a eu un truc sur France 2, ça s'appelait la soirée de Polar,
oui,
de DE, où ils enchaînaient des séries policières. Vers 2005, quand ça faisait 5 ans qu'il avait installé le truc, PJ, ça faisait 6 millions de téléspectateurs et ça battait la variété d'en face sur TF1. Donc, preuve par l'exemple, ça peut très bien marcher et ça peut faire des gros succès et ça peut leur permettre de devenir leader. Ils ont un travail d'acclimatation du public à faire qui peut faire que pendant un temps qui, à mon avis, sera réduit, ils peuvent être un peu secoués, en perdre un petit peu, mais pas passer. Ça ne sera pas une baisse énorme, quoi. Et il faut qu'ils travaillent sur une vraie stratégie de groupe et une vraie stratégie de communication. C'est simple, tu l'as expliqué toi-même, en France. On est dans une logique où on enchaîne les téléspectateurs devant leur télé. Mmh. Ah bah puisque tu aimes un NCIS, je t'en programme 22 à la fin, je t'en programme 5 à la suite et tu es enchaîné devant ton canapé, ma petite bonne petite Coach Potatoes, et tu t'enfiles les pubs que je te regarde. Mais pourquoi France 2 ou France Télévisions communique pas en disant ça directement? Bah, France Télévisions, à partir de dorénavant, on s'emploie à vous proposer le meilleur pour vous et pas à vous enchaîner devant la télé. Ayez un programme varié, venez regarder, expérimenter des choses différentes sur une soirée. Avoir une vraie communication, une vraie politique dans la diffusion, dans la programmation de ce que j'appelle moi l'élitisme populaire. Il n'y a rien de plus facile à faire.
T'as pas d'alternative. Tout le monde suit le même principe.
Sûr.
Et de la même manière que le type t'annonce que, évidemment, dans l'univers, dans l'économie qu'ils ont créée, économiquement, c'est viable. C'est le serpent qui se mord la queue. Il te dit
sûr.
Que ça marche parce
mais
que forcément, il n'y a que ça qui existe.
Je suis d'accord avec toi.
De la même manière que ça, il peut te l'affirmer, moi, je peux dire aussi, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, si France 2 décide de diffuser pendant l'inédit de TF1 une série et puis pendant la rediff une autre, la personne qui va regarder la rediff ne va pas se dire « Putain, j'ai déjà vu celui-là, je vais zapper ». Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ça ne marche pas? Rien, parce que personne ne le fait.
Oui.
Donc c'est complètement.
Mais je suis d'accord.
Et
mais bien sûr que ça me rend folle aussi.
Et moi je vais encore passer. Et moi je vais
clair,
encore passer
c'est pour
l'étape
ça que
d'après.
Je n'envisage pas de partir vers la programmation ou la stratégie parce que on me dit mais vas-y machin, mais c'est pas possible, je vais m'arracher les cheveux quand je vais être devant ces mecs-là.
Et moi je vais
bien
encore
sûr.
Passer l'étape d'après, c'est-à-dire que tous les mecs nous disent économiquement, stratégiquement, ce qu'on fait en ce moment ça marche. Moi, je suis sûr que... Enfin, je peux argumenter que ça ne marche pas, qu'ils ont tort. Parce que tout simplement, quoi, ça marche quoi? Ça marche à l'horizon de là, de 2 ans.
Mmh.
Et après 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Parce que, techniquement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces stratégies de programmation? C'est ces gens-là qui ont tué la fiction française. C'est ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, en France, on est un pays où la part de marché de la fiction américaine est largement supérieure à la fiction française. On est un cas unique. Il faut bien, on s'en rend peut-être pas
oui,
bien
si,
compte.
Si, si, si.
Eux, ils le
on
savent
est,
parce que c'est
oui,
des professionnels. Dans tous les autres pays d'Europe, la fiction locale, la fiction espagnole, c'est ce qui marche le mieux en Espagne. La fiction anglaise, c'est ce qui marche le mieux en Angleterre.
Ce qui est normal.
Ce qui est totalement normal. Ok, sauf que ça, ils ont cassé ça. C'est fini, nous, on est un pays maintenant. Il faut travailler pour le remettre. En tout cas, pour l'instant, on est un pays où ce qui marche d'abord, c'est la fiction américaine. Sauf que là, on voit poindre un nouveau problème. La fiction américaine, on l'a déjà dit, elle coûte pas cher. En gros, n'importe qui peut l'acheter.
C'est de l'achat.
Y compris la chaîne de la TNT. Demain, qu'est-ce qui fait la différence entre TF1 et NRJ12 ? Si tous les deux, ils peuvent aller s'acheter la même série américaine et la passer en inédit le soir. Si demain, un mec à NRJ12 a un peu de couilles et qui va s'acheter l'outpost, vraiment dépenser un peu de thunes et s'acheter l'outpost deal, le contrat qui fait que la Warner ou je sais pas quel studio doit lui filer en priorité toutes ses séries. Et que c'est NRJ12, W9 ou je sais pas quoi, NRJ12 c'est des indépendants, donc NRJ12, Direct 8, qui récupère les grosses machines américaines à audience en inédit. Dans 5 ans, NRJ12 peut être en audience devant TF1. J'exagère un petit peu, pas tant que ça. Dans 10 ans.
Si, parce
que en tout cas, c'est déjà plus ou moins ce que fait Orange Cinéma Série voilà. En récupérant
ouais, enfin,
toutes les
Orange
séries HBO.
Cinéma,
sauf que personne ne regarde.
Voilà, Orange Cinéma Série mais est en train de se casser
si
quand même lamentablement
la gueule. Ils étaient accessibles à tous les gens.
Parce que c'est compliqué pour eux,
il n'y
a pas de visibilité,
mais
ils prennent des séries élitistes. Mais si tu pars de ce principe-là, ça coûte cher une série.
Mais bien sûr, mais NRJ12, c'est pour ça. Tu dis ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes la TNT ? Des chaînes comme NRJ12, bien sûr que s'ils voulaient, ils avaient décidé d'acheter une grosse série, bien sûr qu'ils feraient des audiences canon peut-être dessus. Encore, pour faire des audiences canon, il faudrait que les gens aillent jusqu'à la 12 sur leur TNT. Déjà, les trois quarts des gens ne vont pas forcément aussi loin.
Là, tu pousses loin.
Tu le dis toi-même, maintenant la TNT, mais tu n'en as rien à foutre. C'est pas les vieux qui regardent Mentalist, les vieux, ils vont.
C'est fini les téléviseurs, tu s'allumes automatiquement sur la une pour
les
aider.
Excuse-moi, Émilie, mais on a eu la preuve. Le samedi soir, dès que France 3 programme une série qui est un peu moins pantouf que d'habitude, les vieux, ils vont taper sur les boutons de la télécommande pour aller trouver la rediff de Navarro ou d'une femme d'honneur sur TMC. Et bien sur TMC, c'est la 14 ou la 15. Ou la 10. Bah, toujours est-il qu'ils l'ont trouvé le bouton.
Ouais, hein. 10, 12, là, tu.
Non, mais globalement, il faut déjà que les gens, ils aient pas trouvé mieux avant pour arriver là, en gros, parce que c'est un peu ça quand même. Et deuxièmement, il faut qu'ils aient communiqué assez pour que les gens sachent que c'est là.
Non, mais encore une fois.
Au bout d'un moment. À une époque, et puis, sur les séries américaines, NRJ12 qui achète un gros budget. Et le reste de leur grille, ils la payent comment ? Ça veut dire que tout le reste de leur grille, ils vont passer de la merde parce qu'ils n'auront pas le budget de tenir comme ça.
Tu sais quoi, Émilie ? Pendant 4 ans, ils font de la perte. Et la 5e année, ils ont dépassé M6 et ils ont dépassé France 3 et Talon TF1.
Ce type de chaîne ne peut pas. Celles qui vont pouvoir le prendre, c'est celles qui ont un groupe. W9, si on voulait, W9 pourrait se dire ça.
Mais
parce
qui
que
dit
derrière,
qu'ils vont pas
encore une fois, regarde le modèle américain. Les mecs, une chaîne comme AMC, ils se lèvent un matin, ils se disent « Bon, bah écoutez les mecs, pendant 3 ans, on perd de l'argent et dans 4 ans, on fait la nique à HBO. » Et ben, ils l'ont fait.
Imagine, demain, il y a un type mécène qui arrive à la tête d'une chaîne de télé française en disant « Je vais tout foutre en l'air dans le paf. »
Bolloré, il fait quoi ? Il essaie de faire quoi ?
Oui, enfin bon.
Mais ok, je ne dis pas quel.
Il le fait petit joueur.
Il le fait petit joueur, arrête.
Mais pourtant, c'est celui qui est le plus, à la rigueur, outsider dans ce sens-là.
Oui, mais enfin, un outsider, c'est quelqu'un qui essaie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est pas quelqu'un qui essaie juste de récupérer sa part du gâteau.
Encore une fois, le problème fondamentalement, c'est qu'institutionnellement, en France, on a bridé ça. On a tout fait politiquement pour que le système y reste stable. Quand des mecs sont arrivés en disant « je vais pouvoir dépenser de la thune et secouer un peu le cocotier », pas forcément des gens classe, hein, Berlusconi, Slamakiam. On a tout fait pour les tuer.
France Télé.
Là, dans ces cas, les mecs, ils arrivent à se mettre d'accord. Et les politiques et tout ce que tu veux. Bon, bah, c'est fondamentalement, c'est ça le verrou.
Bien sûr.
C'est pas autre chose. Hein. C'est pas un problème d'argent. Des mecs qui ont. Regardez ce qu'Orange a fait pour Orange Cinéma Série. C'est quand même assez. Je suis d'accord avec toi que ça marche pas, mais ça ne marche pas parce qu'ils ont voulu que ça marche pas. Je veux dire, ils ont parti dans une logique de programmation complètement élitiste. Soit les mecs sont complètement cons, ce qui n'est pas complètement impossible. Soit les mecs sont complètement cons. Soit ils se sont dit, c'est pas grave, on fait de la télé super élitiste qu'on regarde pas. Mais peut-être que ça va nous choper 2-3 abonnements ou je sais pas quoi. La stratégie du genre d'Orange n'est pas super claire.
Les mêmes mecs qui n'avaient pas à se poser la question.
Mais la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'ils ont. Bordes de thunes, quoi. Mais Orange fait des milliards de bénéfices chaque année, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Ils peuvent, si jamais ils s'y mettent, demain Orange, ils lancent une télé en disant dans 5 ans les mecs, on nique TF1, on est passé devant eux. À Orange, ils ont la thune pour, ils le peuvent. Ils peuvent racheter tous les contrats, ils peuvent racheter le foot, ils peuvent racheter les séries. Et puisqu'aujourd'hui, comme ces génies de la programmation qui pensent que leur système marche super bien, ont transformé tous nos grands généralistes en chaîne de la TNT, aujourd'hui, n'importe qui, un nouvel arrivant peut arriver sur le secteur et en 5 ans, il fout un bordel monstre, quoi.
faut voir ce que ça va changer, le passage au tout numérique, à partir de mars, à quel point ça va changer radicalement les choses. Moi, je pense que ça va changer pas mal au niveau des audiences. Je pense qu'ils vont le sentir passer.
Bah, y a un truc... ils vont le sentir, mais c'est pour ça que maintenant, ils partent sur des stratégies de groupe et que M6 va avoir son W9, que TF1 a son N1 et TMC, etc.
C'est intelligent,
etc.
Tu mets un miroir devant M6 et puis pouf, t'as W9.
Non,
c'est
mais, génial, mais, globalement, mais globalement, TF1 fait pareil avec, avec du NTA ou TMC. Pas, mais, pas tout à fait pareil, mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est
mais que... intelligemment, ça pourrait être BBC, un BBC et tout, sauf qu'il
est pas
intelligemment, quoi.
Mais non, parce que...
Et le seul...
derrière, ils voient pas l'intérêt.
Bah oui, mais parce qu'ils sont idiots. Le seul truc un peu intéressant qu'ils ont fait, par exemple, c'est quand ils ont fait Nouvelle Star, qui passait Nouvelle Star, ça continue sur W9. Tu dis putain, une stratégie de groupe,
ouais.
Je te force à zapper sur mon autre chaîne et à découvrir les exactement. Programmes et les animateurs de W9. Putain, c'est super intelligent quoi. La deuxième année, ils ont mis Nouvelle Star, ça continue sur M6. Directement dans la continuité. Enfin, tu dis, mais ils se coupent parce que.
En fait, le slot de 2h de 20h50, ça devient un slot de 4h quoi.
On va passer à la dernière partie. J'ai appelé ça favoriser l'innovation. Parce que bon, il faut bien avouer que le système de la fiction française, encore une fois, on a beau depuis 5 ans être dans la crise de la fiction française, malgré ça, il n'y a pas grand chose qui a bougé. Alors si Canal+ a un peu réussi à secouer, mais finalement quand on compare l'argent qu'a Canal+, leur chiffre d'affaires, leur bénéfice, ben ils investissent péniblement 40 millions d'euros dans la fiction. Honnêtement, ça va, ils ont pas pris des risques, les mecs. Enfin, je veux dire, c'est bien ce qu'ils ont fait. Enfin, on les a beaucoup soutenus, Canal+. On peut pas nous dire qu'on a été chien avec eux, mais il faut quand même aussi dire la vérité, les mecs ils ont pas beaucoup pris de risques quoi.
Bah, ils sont sur du policier, sur de la fesse. Sur...
Oui, mais même en termes de budget, en fait, ils ont pas beaucoup investi quoi. Aujourd'hui, ça fait maintenant du coup presque 2 ans que ça marche vraiment. Ils pourraient carrément avoir dit putain, maintenant avec Braco on dépasse les séries américaines. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on fait 8 séries françaises par an, on en fait plus 4. Mmh. Et on passe de la série française en continu toute l'année à part les 2 mois d'été. Il n'y a pas grand chose qui leur empêche. Et rationnellement, ça pourrait justifier aujourd'hui, vu l'audience que ça leur apporte.
Et puis maintenant, elle est installée, leur casse de 20h50 le lundi pour la fiction maison. Donc,
et puis ça les rend indépendants du reste, parce que sur les films, sur tout ça, l'achat des droits de sport, etc., c'est plus compliqué.
Même les films d'Hollywood ne sont pas bons, même si le cinéma français, c'est voilà, 300 films
encore,
qui sortent, dont
280
pourris. Et bien, ils ont toujours du programme de qualité à vendre à leurs téléspectateurs. Donc, bon, ce constat, finalement, malgré la crise, malgré le fait que tout le monde sait qu'il faut faire des choses, il n'y a pas eu énormément d'innovation à la télé française, dans les séries françaises. Qu'est-ce qu'on peut faire pour innover? Il y a un truc qui s'appelle le Fonds d'aide à l'innovation, une émanation du CNC.
C'est
qui
une
donne
bête
de l'argent
bizarre.
Pour inventer des projets nouveaux et originaux. Et si on se servait de ce truc hein?
Parce qu'à l'heure actuelle, le fonds d'innovation, en fait, ça aide donc des auteurs à écrire des projets qui ne seront jamais diffusés. Et alors là, quand même, je pense qu'on
est...
pas
expliqué comme ça sur le CNC, hein.
Mais dans la vraie vie, c'est comme ça.
Dans la vraie vie, c'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu une série du fonds d'innovation sur un écran?
Alors attendez, en fait, la grande nouvelle de l'année, c'est qu'il y a une série du fonds d'innovation qui est en développement chez Son et Lumière.
D'accord.
Peut-être diffusion sur France Télévisions d'ici un an ou deux.
Ouais, enfin, sur une année de France Télévisions, c'est un petit peu comme les chiens, tu multiplies par 7. C'est 7 ans ou 14.
Oh la vache.
Mais c'est qu'à moitié faux ce que je suis en train d'avancer.
Non, en fait, c'est complètement vrai. Il faut que je vous dise, podcasteur, mon brief pour ce podcast, c'était le podcast politiquement incorrect sur la fiction française. Pour l'instant, je suis content.
Et donc le voilà. Fonds d'innovation. Donc, à l'heure actuelle, on a une sorte de vivier complètement inutilisé. Alors, à tort ou à raison, j'en sais rien. En même temps, quand on voit certains pitchs, on part d'un principe tout bête, c'est « mais jamais ça sera à la télévision ». Limite, jamais la télévision française, voire la télévision tout court. C'est des projets vraiment jusque-boutistes. Si on tempérait un petit peu ces projets jusque-boutistes en ayant une logique, en se disant « oui, il faudrait que ça soit diffusé », ce qui serait bien, ça serait de forcer les grands groupes, groupe M6, groupe TF1 et compagnie, de développer justement une des séries qui vient du fonds d'innovation. Donc par un système pompé sur le système américain sportif, le système de roster, c'est-à-dire qu'en gros celui qui a été le plus fair-play dans la saison au niveau des diffusions, de la respection des règlements,
quotas.
Des quotas, eh bien prend le premier choix, et puis le deuxième choix, bah, c'est celui qui a été un peu moins bon, et ainsi de suite. Je parle des grands groupes, hein. Je parle pas des petites chaînes, la 32e chaîne de la TNT qui n'aura pas les moyens de développer des projets aussi compliqués, mais je parle pour les grands groupes. Donc, les forcer à faire ça.
Et donc, chers auditeurs, vous avez bien compris. Donc, pour M6, qui a dépensé trois fois moins que ce qu'elle est normalement obligée de dépenser pour la fiction et qu'on a diffusé trois fois moins, c'est elle qui se chope le dernier choix parce qu'elle passe en dernier.
Donc, la série sur un groupe d'extraterrestres bègues sur une station sur Mars. Quoi. Donc,
bon courage, Nicolas.
Non, mais voilà, au bout d'un moment, si on veut favoriser ça, c'est
arrête,
pas...
Il y a peut-être un concept de télé-réalité avec ça.
Peut-être, oui. Mais
inviter des gens bègues.
Télé-réalité sur les bègues, bon courage au montage. mais c'est surtout que je pense qu'on est les seuls au monde à avoir créé le système d'argent de poche pour les auteurs, où on dit il est sympa ton projet, il innove, tiens, voilà des sous. Je vois pas en quoi c'est une finalité pour un auteur d'avoir des sous du CNC, sachant qu'il fera jamais son projet. Moi, je dirais même que ça peut créer même une sorte de comment dire, d'industrie à part entière, où l'auteur décide de faire le truc le plus radical possible en se disant « Mais ça sera jamais à la télévision en France ou en Espagne. Je le propose et je vais gagner ma petite bourse. »
Moi, mon métier, c'est de percevoir des subventions du CNC pour les non, trucs qui passeront jamais.
C'est incroyable. On crée un système qui n'a pas de but industriel. C'est... Enfin,
après, là, je fais... Mais alors, là, le problème, en fait, c'est que... c'est qu'on est... en fait, c'est l'hypocrisie du système. C'est-à-dire qu'on te vend le fonds d'innovation comme étant un fonds d'innovation, c'est-à-dire un fonds pour encourager des projets innovants. Sauf qu'en vérité, même les gens qui font le fonds d'innovation savent très bien que c'est pas le but du fonds d'innovation, de favoriser l'éclosion de projets innovants à la télévision. C'est quoi le but du fonds d'innovation? Ben, ça nous ramène à ce dont on parlait... dans la première partie de ce podcast, qui est l'économie super fragile et le fait que quand t'es scénariste, en gros, t'es au pain sec et à l'eau. Et donc, du coup, pour éviter que les scénaristes, entre deux projets, parce que pour réussir à passer les 22 étapes de développement, enfin, tout ce qu'on a décrit, tout ce qu'on a commencé, et que sachant que le développement paye pas, il faut passer à l'actif pour réussir à espérer gagner sa vie. Donc, en gros, pour la plupart des scénaristes, tous les 5 ans, ils touchent un chèque, le reste du temps, ils crèvent de faim. Et donc, pour les empêcher de complètement mourir de faim ou bien d'aller bosser chez McDo, et du coup, à McDo, ils n'auront plus le temps d'écrire, on invente le fonds d'innovation, qui est effectivement l'argent de poche du scénariste,
exactement,
pour réussir à maintenir dans la profession des gens que le système aurait exclus à tort, parce qu'il faut quand même des scénaristes professionnels pour travailler. Quoi. À un moment donné, on aura besoin d'eux, mais qu'entre le moment où on a besoin d'eux, on ne sait pas quoi en faire.
Et on revient au grand problème de toute notre industrie, qui est que d'un côté, nous avons des diffuseurs bassement... qui ne regardent que la réalité économique, et de l'autre côté, nous avons une vision hyper romantique de ce qu'est la création et de comment la subventionner et comment s'en occuper. Et il faut vivre tout le monde et il faut faire tout le monde. Et c'est bien le problème, c'est qu'on a les deux systèmes et qu'on veut qu'ils marchent ensemble, sauf que c'est pas trop fait pour. Voilà.
Bon, et puis un autre point qui, je pense, au niveau de l'innovation, c'est de favoriser en fait un travail sur le genre à la télévision française. C'est-à-dire qu'en gros, à la télévision française aujourd'hui, vous pouvez voir de la fiction policière.
de la fiction policière.
Voilà, un petit poil de fiction socio-économique, truc-muche, pas bien défini.
Des adaptations.
De l'adaptation littéraire en costume, Naftaline, ouais, sponsorisée par De Carolis et Duhamel. Et voilà, en gros, on a fait le tour.
Sur Canal, on a un peu de fesses.
Et oui, oui,
oui, oui.
Oh, si, et bien si. Un peu sur Arte bientôt.
Oui,
ça se démocratise.
Ah, Canal+. Le cul, c'est vendeur. Hein.
Ouais. Canal Plus, dans l'absolu, était un peu plus diversifié, même s'ils ont encore des efforts à faire. Eux-mêmes aussi. Mais et du coup, enfin, on a quand même des tas de territoires qu'on couvre pas du tout. La comédie en France, c'est quoi? Ben, c'est fait pas ci, fait pas ça.
Record Kaamelott, mais
ouf. Kaamelott,
c'est fini.
Ouais,
record,
bah oui. Mais écoute, je cite ce qu'on peut encore citer.
Et voilà, et puis éventuellement, t'as des séries de TF1 qui rentrent dans la case comédie, genre.
Camping genre, Paradis.
Ouais, voilà, ou enfin bon, bref. Quoi.
Bienvenue aux Edelweiss, avec bientôt Simon Astier.
Voilà. Il faut bien manger.
Il faut bien manger là.
donc voilà, et vous avez des, là encore une fois, vous avez des gens qui, la main sur le cœur, avec. La plus grande sincérité du monde vous explique, mais par exemple, qu'en France, on ne sait pas du tout faire du fantastique, on en est incapable.
Ou de la science-fiction.
Ou alors, mais.
Ouais,
on ne parle même pas de la science-fiction. Et ces gens-là n'ont pas compris qu'en fait, c'est pas qu'on savait pas faire du fantastique, c'est qu'on savait pas faire à la base, et que du coup, si on fait du fantastique en sachant pas faire, ça se voit encore plus. Mais le problème, c'est pas le fantastique, en fait. Hein. C'est juste que même les autres séries, elles étaient moisies. Donc, simplement, si vous faites une série policière moisie, ça donne Julie Esco. Bon, ben, c'est moisi, mais c'est pas réaliste du tout. On n'y croit pas, mais bon, ça va, quoi. Mais si vous faites une série fantastique et que c'est pas réaliste et qu'on n'y croit pas, là, vous, en fait, vous avez du Z, du nanar, quoi. Et ça pardonne encore moins. Donc, en fait, on a favorisé des formes de création qui s'accommodent de la médiocrité. Et c'est la seule raison pour laquelle on peut pas faire des choses de genre en France. C'est que d'autres domaines de création s'accommodent pas de la médiocrité. On peut pas se permettre de faire des trucs médiocres, il faut être au moins un peu bien.
Et puis alors le double langage est formidable parce qu'ils disent on sait pas faire de la science-fiction et du fantastique en France, et un auteur qui propose de la science-fiction ou du fantastique en France à un producteur va dire c'est de la science-fiction, on veut pas produire de la science-fiction,
personne va nous acheter ça,
personne sait acheter, oui bah en effet vaut mieux pas en faire, oui,
ça, parce qu'on va gentiment leur dire bah oui mais je vais essayer de vendre ça à un diffuseur, le diffuseur va me dire ah mais moi je suis grand public, je suis machin, je pourrais pas caser sans ma grille, ou alors à perpète les oies dans ma grille, et du coup, ça rentrera pas dans mes quotas, donc quel est l'intérêt que je le finance?
Ben, en gros. Ben, l'intérêt, c'est que, par exemple...
Ah oui, une fois de plus, l'avocat du diable.
Et puis, en plus, tu crées un deuxième problème, c'est que pendant tellement de temps, t'as pas eu de série de science-fiction ou de fantastique française, va le vendre à un téléspectateur, va lui dire, c'est une série de science-fiction française. Maintenant, et attends pour le rire, il arrive très vite. Mais c'est ça qui est, non, c'est ça qui est dramatique.
Tu regardes une série française, les trois quarts des gens rient, donc à partir de là...
Et l'intérêt de tout ça, c'est que la série de genre en général, en prenant genre comme étant large, qui peut recouvrir plein de choses, ça permet aussi vachement de déverrouiller le discours général de la fiction. En gros, si vous faites une série super réaliste, vous êtes dans vos sujets, soit vous verrouillez tout avec des avocats, soit vous êtes, soit c'est difficile d'être un peu provocant, quoi. Par contre, si vous vous servez du genre pour faire ça, vous pouvez traiter de sujets. Alors l'exemple type, c'est le Children of Earth de Torchwood, où vous retrouvez en fait avec des scènes où vous avez le gouvernement britannique qui est réuni autour d'une table, décide donner 10% de nos enfants aux extraterrestres. Quel 10% on donne? Et qui discutent entre eux, qui se mettent d'accord. Bon bah écoutez, les 10% d'enfants pauvres, de toute façon, ils vont finir en taule ou au chômage. On va donc économiser de l'argent, on les file aux aliens. Enfin, c'est d'une puissance et d'une force politique incroyable. Et ça, c'était sur BBC One.
Donc, imaginez ça sur
France 2.
5 soirs de semaine, 5 soirs de suite, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a 21h. Et ça fait un carton, ça fait 6,5 millions de téléspectateurs. Et c'est... Enfin, voilà. Bref. Pleurons.
Mais ça, mais moi, ouais.
Heureusement qu'on peut les voir, ces séries-là. Parce que, disons...
Non, mais...
Bon, et puis, en fait, le point suivant que j'avais noté, on en a déjà longuement parlé, qui était révolutionner la programmation, on voit qu'on a du travail.
Oui.
Et il y a un dernier élément dont je pense qu'on pourrait parler, ce serait de travailler sur la sociologie des acteurs de la télé. En gros, moi, quand je regarde la fiction française, ce qui me frappe, c'est que, alors notamment les fictions de TF1 ou même de France 2, c'est assez frappant. Vous avez des gens de la classe moyenne supérieure, des grosses familles, tribus bourgeoises avec une grosse maison de campagne. Mes amis, mes amours, mes emmerdes, c'est le catif.
Une famille formidable.
Une famille formidable, même fait pas ci, fait pas ça, sociologie. Et en fait, donc la question pourrait se poser, mais pourquoi est-ce que toutes les familles de la télévision française procèdent de la même sociologie? Moi, je pense que la réponse probable est que les scénaristes qui écrivent ça procèdent de cette sociologie-là qu'ils écrivent sur ce qu'ils connaissent. Et du coup, on en arrive à la question, mais comment ça se fait qu'à la télévision française, il n'y a que des gens de ce type de milieu qui peuvent y travailler, en fait? Et donc ça, on soulève un autre lièvre, en gros, parce que ça... Il y a plein de choses là.
Il y a ça, et puis il y a aussi, à mon avis, la volonté de la chaîne de faire toujours de la fiction moyennante. Donc on se dit, plutôt que d'aller dans un extrême, un pauvre, un très riche, on va prendre quelqu'un vraiment classe moyenne. Bon, classe moyenne aisée, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus si c'est ça une classe moyenne.
La théorie en fait en vogue, c'est que le téléspectateur, en fait, il souhaiterait voir quelqu'un qui est socialement un peu plus élevé que lui, mais juste au-dessus.
Exactement.
Que ça le fasse un peu rêver, mais pas trop.
Voilà. Et sachant que, enfin, c'est une jolie théorie, hein, mais vous allez regarder sur n'importe quel marché étranger et vous êtes frappé par des milliards de contre-exemples, quoi. Toute l'industrie des soaps anglais est basée sur le fait de montrer des prolos. Oui. Voilà. Enfin, donc, Donc elle est jolie la théorie, mais en fait je pense que sa seule vérité, c'est elle est empirique en fait. C'est que vu qu'on fait que ça, il y a que ça qui marche.
Mais non, mais voilà, c'est le même problème depuis le départ. Quoi. Il y a que ça qui fonctionne parce qu'on fait que ça, et puis on fait que ça parce qu'il y a que ça qui fonctionne. Donc c'est bien, on se complaît en fait toujours dans le même contexte.
Mais à tout niveau, de toute façon, c'est ce que tu disais, aussi bien sur la création, aussi bien sur la programmation. Globalement, c'est l'autre problème du système.
Et en fait, je pense
c'est tant que ça marche, pourquoi on changerait ?
Parce que depuis 5 ans, ça ne marche plus, nous sommes dans la crise de la fiction française.
Non, mais voilà, non, mais tu peux pas te plaindre qu'il y ait une crise d'une fiction sans prendre ta part de responsabilité. Il y a la crise, pourquoi ? Parce qu'on l'a laissé venir, la crise. Parce qu'on l'a créée, la crise.
Le mieux dans toute cette histoire, c'est ce qu'il faudrait pas oublier, c'est que tu as quand même plein de gens qui se sont mis à réfléchir sur cette fameuse crise de la fiction française, y compris dans les professionnels du secteur. Oui. Et qui, le pire, c'est qu'il y en a qui arrivent à des conclusions relativement assez proches des nôtres.
Oui.
Hein, à l'occasion,
chaque fois qu'on lit un rapport, on est pas plus.
Voilà, à l'occasion, lisez le rapport du Club Galilée sur la crise de la fiction française, rapport qui a été remis à Frédéric Mitterrand, etc. Vous verrez que globalement, leurs idées sont loin d'être mauvaises. On n'en est pas forcément si loin d'un point de vue non économique, alors qu'eux sont dans la place. Mais que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à faire, tout le monde est d'accord plus ou moins sur les grands axes de ce qui devrait être fait, en théorie, mais alors après...
Non mais le problème c'est que c'est des rapports, ils font des rapports, c'est bien, ça permet de dire, regardez on a fait un rapport. Pour moi, il n'y a pas d'autre finalité que ça. Je ne vois pas en quoi ça va changer quoi que ce soit de faire un rapport. Oui, c'est un rapport.
Surtout que là, on est rendu le point où on a assez de rapports. Hein.
Surtout, franchement, avec le gouvernement qu'on a, qui a plutôt tendance à faire passer les lois, faire des rapports ensuite, clairement, s'il commence par faire un rapport, quelque part, pour moi, ça veut dire que ça ne mènera à rien derrière.
De rien. Et en fait, pour moi, cette question de la sociologie, elle est connectée à quasiment tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a expliqué que si on était un scénariste, en gros, on avait tellement d'obstacles qu'on pouvait espérer vendre un projet original tous les 10 ans et gagner un peu d'argent tous les 10 ans, qu'entre-temps, on vivotait éventuellement en étant inventeur de concepts tarabiscotés pour le fonds d'innovation, etc., etc. Donc, enfin, on tape à une simple question, sachant que vous êtes dans un métier où il faut galérer 10 ans pour y rentrer, et une fois que vous y rentrez, vous marchez pendant 2 ans et vous regalérez pendant 10 ans tous les 2 ans. Donc en fait, si vous pouvez pas en fait subvenir à vos besoins sans avoir vraiment besoin de travailler, vous allez avoir du mal à vous maintenir dans ce système. Donc du coup, voilà,
on part toujours du même principe sur l'unification des producteurs. Est-ce que ça pourrait exister une unification des scénaristes ? Tous les scénaristes à l'heure actuelle tirent dans des sens différents, ne s'unissent pas ou très peu. On en parlait dernièrement avec des scénaristes. Le passage d'informations, le passage d'expérience entre scénaristes est extrêmement rare, parce que tout le monde essaie de garder sa petite part du gâteau, s'accrocher à sa petite part pour surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne la bouffer. Ce qui est compréhensible, hein, ils sont dans une situation difficile, donc pourquoi ils s'agripperaient pas au très peu qu'ils ont ? Mais ils ne sont pas unis comme peuvent être unis les auteurs anglo-saxons, où là, évidemment, là, s'ils bougent, ça fait très 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 mal. Là, il n'y a pas d'unification possible, étant donné qu'on a tout fait pour les isoler bien les uns des autres. Et donc, à partir de là, s'il n'y a pas d'unification, il ne peut pas y avoir de progrès à ce niveau-là, à mon avis.
Bon, une éventuelle bonne nouvelle, il y a quelques mois, les deux syndicats de scénaristes concurrents qui existaient ont fusionné pour n'en former plus qu'un seul. C'est un premier pas. On verra dans les mois à venir si ça peut porter ses fruits. C'est intéressant, cette semaine, on a posté plusieurs contenus sur la fiction anglaise,
oui.
Où on a des producteurs et des scénaristes anglais qui expliquent que là, ces 10 dernières années, justement, en fait, l'Angleterre a investi sur l'écriture, sur les high concepts, sur la création, et que comme ça, ils ont développé une fiction puissante et commerciale qui maintenant s'exporte bien. La même semaine, on a beaucoup entendu parler de Borgen, oui. Qui vient du Danemark. Qui est une série politique, on en a parlé sur le site. Et là, les gens qui font Borgen nous apprennent, il y a eu une masterclass, il y a un article sur le site de Télérama, qu'il y a 5 ans, quand la télévision danoise a voulu se reprendre en main, elles ont dit, on va tout miser sur l'écriture, on va mettre les scénaristes au cœur du projet, et on va dire que quand il y a un conflit entre un scénariste et un réal, on arbitre en faveur du scénariste. Bizarrement, en fait, on voit empiriquement à travers le monde, dans tous les cas, c'est toujours la même chose.
Ouais.
Quand à la télévision, on met l'écriture... au cœur du projet éditorial, la fiction décolle.
Qu'est-ce qu'on attend?
Non, mais après, en plus, à chaque fois qu'on sort cet argument, l'argument des auteurs, toujours les diffuseurs, oui, mais bon, ça marche aux États-Unis parce que c'est les États-Unis, ou ça marche en Angleterre parce que c'est en Angleterre. Le problème, c'est qu'on prend n'importe quel pays qui a fait ça, ça a marché aussi. Donc, je sais qu'on est très spéciaux, nous, les Français, mais il ne faut peut-être pas exagérer non plus.
La vérité, c'est juste que ça ne marche pas en France parce que c'est la France, c'est tout.
Voilà.
Parce qu'on ça serait un petit peu réducteur. Parce qu'on veut pas que ça...
Bien sûr, on veut pas que ça marche.
Bon, on vient de passer un long moment à vous expliquer tout ce qu'il faudrait faire, pour, à notre avis, pour faire décoller la fiction française. On vous rassure, hein, rien de tout ça va ne se passer. C'était un doux rêve.
C'était juste pour se défouler.
Big up à Nicolas de Taverneau, si tu nous écoutes.
Ça nous a fait plaisir.
Et à Ingrid. Un petit
vous pensez bon vers toi. Fréquent en ce moment, une Ingrid Chauvin.
Ah, ça, écoute.
Les toquer.
Ton prochain caso.
Les toquer. Ouais, voilà. Non, faut peut-être pas exagérer. Non.
On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt. Bonjour chez vous.
Salut.